Hello tout le monde, je suis Edouard Bonamour et vous écoutez le podcast de Perds pas ma page, un podcast qui vous fait découvrir la bibliothèque idéale des artistes que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Mon invité cette semaine va vous faire voyager. Né au Québec et passé par la France, l'Italie, l'Espagne ou l'Argentine, Mathieu Deslongchamps a voulu raconter les paysages de son enfance au Panama dans son premier album, tout naturellement intitulé « Vivo en Panama ». Un carnet de voyage qui oscille entre le français et l'espagnol, avec ses douces mélodies et ses tempos qui sentent bon les vacances. Vivo en Panama est le genre d'album qui vous donne envie de lever les yeux sur un ciel bleu et de sourire sans raison, juste parce que parfois la vie est douce et qu'on est heureux. Perds pas ma page, épisode 21, c'est parti. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Ouais. Je suis très heureux de te retrouver ce soir.
Eh ben écoute, je suis honoré que tu prennes du temps pour venir m'interroger.
Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Je veux juste avant de commencer te rappeler un peu le principe de ce podcast.
Okay.
Tu m'as donc donné trois titres de livres, tu m'as envoyé une liste.
Ouais.
On va en discuter pendant une trentaine de minutes. L'idée, c'est de faire connaissance avec toi à travers ces livres que tu as aimés. Je ne vais pas te demander de me faire une étude de texte.
D'accord. Tu me rassures.
Peut-être une petite interrogation à la fin, sait-on jamais. En tout cas, voilà, j'ai hâte que tu m'en parles et puis que tu nous donnes envie de les lire surtout. C'est toi qui choisis. Donc, tu m'avais dit la porte étroite de André Gide,
ouais.
Vol de nuit de Saint-Exupéry ou ouais. Le pèlerin Éric de Éric
Vianney. C'est moi qui choisis, c'est-à-dire on choisit un des trois ou...
Tu choisis un des trois, le premier dont tu veux parler.
Ok, bah commençons dans l'ordre. Ça commence avec la porte étroite.
Allez, c'est parti.
Ça
ouais. Publié en 1909, La Porte étroite d'André Gide suit les aventures de Jérôme, l'alter ego de l'auteur. L'œuvre est autobiographique et raconte son mariage avec sa propre cousine, une union qui ne sera pas de tout repos. Et je ne vous spoilerai pas plus l'histoire, ça parle du sens du devoir et de la vertu. Bref, c'est une histoire d'amour très très compliquée.
Alors tout ça, c'est des livres que j'ai lus il y a longtemps en réalité. J'ai cherché un peu dans ma mémoire des livres qui m'ont marqué.
Tu l'as lu à quel moment celui-là, par exemple ?
La Porte étroite, je devais avoir 18 ans, 17 ans, tu vois,
okay.
Il y a quelques années. Et c'est bien parce que ça correspond à un âge aussi. La Porte étroite, ça m'a marqué parce que c'est toute cette grande question de l'amour romantique, plus que romantique, qu'on voudrait presque absolu et sacré. Moi, ado, j'étais un grand romantique, un grand idéaliste, un grand absolutiste.
Ah ouais, c'est vrai?
Ouais, j'étais complètement... Je suis un peu redescendu, évidemment, il fallait bien. Et du coup, ce livre m'avait vachement marqué. En fait, c'est l'histoire donc de deux cousins qui sont amoureux. Alors, on peut imaginer dans des familles un peu à l'ancienne, les grandes familles où ils se côtoient depuis petit. En fait, il y a un amour entre ces deux cousins. Et si mes souvenirs sont bons, hein, je crois que c'est ça. Et en grandissant, ils sont en même temps dans une quête spirituelle. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est à la foi. Je suis croyant. Et du coup, il y a cette double dimension à la fois de la quête spirituelle absolue qui est la quête du divin en fait, et en même temps les sentiments absolus que peuvent être le sentiment amoureux quand il est très fort, qui d'une certaine façon pour moi est presque une émanation du divin, en tout cas de ce qu'aurait dû être l'amour parfait si on n'avait pas saccagé le projet. et du coup on voit que...
Parce que le gars de 18 ans il était vraiment en mode c'est comme ça que ça doit se passer.
Moi,
le Mathieu de 18
ans.
Ouais,
le Mathieu de 18 ans, c'est un peu. Il ressemble un peu à ces deux personnages, tu vois, dans le livre. Et ouais, j'étais dans un. Ouais, dans cette idée absolue de l'amour. Je pense qu'on a tous cette graine en nous, au départ. Et puis la vie nous ramène au réel, quoi. Elle nous met des claques. Et puis finalement, un peu comme dit Souchon, on perd la blancheur originelle. Je ne sais plus comment c'est dans la chanson. Retrouver la blancheur. Voilà, il y a pas de... Exactement, on perd les couleurs originelles et il n'y a pas de machine pour le cœur. Et du coup, il se tâche et puis il oublie même l'idée d'amour absolu. Après, ça devient plus qu'un souvenir, on oublie le sentiment, on oublie même un moment qu'on en a rêvé. Quoi. Et là, cette histoire, ça parle de ces deux jeunes qui sont vraiment là-dedans et qui sont dans une recherche en même temps spirituel du divin, et du coup leur amour est, à un moment est presque mis en, si mes souvenirs sont bons, en, en concurrence, en compétition avec la recherche du divin, de l'absolu, et notamment elle dans le livre, je crois qu'à un moment elle se pose la question si elle ne veut pas rentrer dans les ordres, donc on est vraiment dans...
Et... Ouais, c'est ça, en fait, elle est, c'est la foi protestante, elle, pour le coup. Et,
ah, c'est, tu vois, pas... je me souvenais pas.
C'est à cause de cette foi qu'elle décide de renoncer à tout amour terrestre, en fait, alors qu'elle était profondément amoureuse de, de Jérôme.
Et ben moi, c'est... enfin, tu vois, rien que quand tu m'en parles, tu me remets ça dans la tête, parce que je... j'avais un peu oublié. Moi, ça m'émeut vachement, parce que... c'est... En même temps, je pense qu'il pose ce... cette problématique dans le livre, et qui est un... une problématique un peu typique aussi de... quand il y a un amour, un sentiment amoureux très, très pur et très beau et très fort, surtout à cet âge-là, c'est l'idée qu'en réalité, cet amour ne peut pas rester aussi beau, aussi blanc, aussi, aussi fort s'il se réalise dans, dans le réel, quoi. Donc tant que ça reste inaccessible, pas consommé, ça reste sublime. Et puis finalement, s'il passait à l'acte et puis qu'il devait vivre ensemble le quotidien et la vaisselle et compagnie, on connaît l'histoire, tout ça perdrait un peu, de, un peu d'altitude.
C'est terrible ce que tu es en train de raconter. Non, mais tu sais que c'est la vie de tout le monde, en fait.
Non, mais voilà, écoute, c'est un peu la même aussi l'amour, parfois, on va pas se mentir.
L'amour est toujours plus beau dans les romans, de toute façon. Exactement. Dans les films, les romans, les, la musique aussi.
Exactement. Et parce qu'on on essaye de retranscrire cette, ce sentiment qu'on a et qui, malheureusement, souvent s'étiole un peu dans, dans le réel. Et voilà, et du coup dans ce livre, il y a cette question de se dire, et je pense que, enfin, je me souviens plus bien, mais je pense qu'elle est, elle hésite, elle, elle, finalement, elle choisit l'amour divin, il me semble, mais c'est aussi, je pense, parce qu'elle elle veut préserver, en fait, l'amour absolu, la blancheur, et qu'on croit que, en fait, la, l'humain, lorsqu'il consomme et qu'il devient réel, et que ça devient, que ça, ça arrive dans le réel, comme je disais, eh ben ça, ça perd de sa blancheur, alors que la quête de l'amour divin, ne perd pas sa, sa blancheur. En théorie, c'est un parcours qui va grandissant, qui va en s'approfondissant, mais il y a ce sacrifice très, très, très beau et en même temps terrible, tragique, quoi, de renoncer à leur amour pour rester dans, dans, dans une sphère d'absolu, quoi.
T'avais déjà toutes ces notions-là à 18 ans ? Ça, ça te parlait déjà, tout
Écoute,
ça
je sais pas si je pouvais les expliquer comme ça, mais oui, je pense que ce livre me, me touchait beaucoup. Et il m'avait vraiment ému parce que je comprenais ces personnages, quoi. Je m'y identifiais. Ouais. Et d'ailleurs, il me semble qu'elle parle de la porte étroite, c'est le titre du livre. Il me semble que c'est la fille qui en parle, en disant, souviens-toi, il faut passer par la porte étroite, c'est-à-dire que le chemin le plus difficile... Déjà, quand on a une quête d'absolu et qu'on est très idéaliste, comme je l'étais, et comme, voilà, comme le sont les rêveurs, beaucoup, déjà, même avant de se prendre les claques de la vie, tu te prends des claques tout le temps, parce que tes espérances ne sont jamais satisfaites, et que la vie réelle, encore une fois, n'est pas à la hauteur de tes espérances. Et du coup, tu es dans une recherche d'absolu qui est en permanence déçue, et pourtant, tu t'essayes encore d'y croire, et tu fais tout pour mettre... pour toucher ça du bout des doigts. Donc déjà, il y a cette notion de... Déjà, à cet âge-là, ouais, dans l'adolescence, et au moment où j'ai lu ce livre, je comprenais ces personnages parce qu'il y avait déjà cette quête douloureuse un peu de la perfection, qu'on n'atteint jamais, évidemment.
Ça te sert à ça aussi, la musique, toi, pour le coup, d'exprimer ce genre de choses-là ?
Oui, c'est sûr que... Bah déjà, d'emblée, écrire des chansons, c'est une chance, souvent, parce que ça peut te permettre d'extérioriser tes souffrances et tes peines, et ça fait vraiment du bien. Souvent, je me suis dit qu'on avait de la chance, nous, les auteurs-compositeurs, parce que c'était un remède que tout le monde n'avait pas. Notamment, ça marche très bien dans les peines d'amour, c'est un truc qui marche. C'est-à-dire que quand tu quand t'es là, déprimé, que t'as le cœur cassé en mille morceaux, et que tu fais une chanson, ça te fait un bien fou, parce que tu dis, au moins, ça sert à quelque chose. Ma chanson, voilà, elle a donné ça, merci peine de cœur, tu m'as servi. Et en fait, ça soulage vachement, quoi. Et après, bah, dans les peines plus les peines d'un autre ordre, tragiques et plus profondes, c'est aussi c'est pas toujours évident parfois d'essayer de transcender sa peine ou sa difficulté et de la mettre en chanson. Mais souvent, quand ça vient naturellement. Au moment, s'il n'y attend pas, on prend sa guitare et quelque chose vient, et la chanson naît comme ça, de façon un peu imprévue, quoi.
Super. On passe au deuxième roman.
Ouais.
Brest, Vol de nuit ou Le Pèlerin Eric.
Ouais, on est sur trois livres.
J'ai pris intense.
Waouh.
Tu nous as pris trois livres intenses.
Les gens vont se dire, ils sont sympas, mais. Ouais, trois livres intenses. Alors, Pèlerin Eric. Pèlerin Eric, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué aussi.
Alors, je veux bien que tu. Si tu t'en souviens un petit peu.
Ouais, que bien sûr. Alors, Pèlerin Eric, parce que c'est un truc totalement. Enfin, totalement, oui, totalement méconnu. On est encore un peu dans la religion, mais dans le voyage quand même et l'aventure. Et vraiment dans le héros anonyme, donc on a une bonne transition pour le coup. C'est vraiment un héros anonyme, ça a été un peu mon héros quand j'étais ado. C'est en fait c'est un pèlerin, c'est une vocation à part dans la religion chrétienne. C'est des mecs, alors évidemment ils ont fait vœu de chasteté, tout ça, ils sont un peu comme un prêtre, ils sont consacrés, on appelle ça, et ils décident de partir sur les routes et de vivre de rien, avec rien, mais d'être auprès des plus pauvres et des plus démunis. Et donc ce pèlerin Eric, il s'est appelé pèlerin de la Trinité, il s'appelle Eric, c'est un mec qui dans les années 80 est parti, ou 80,
il 87,
a, ouais. Ouais, c'est ça, il a quitté sa famille. Alors c'est un mec qui vient d'une bonne famille française, il était, je crois qu'il était ingénieur, je sais pas quoi, il avait tout ce qu'il fallait, et un jour, il décide de tout lâcher, de tout quitter pour partir marcher auprès des plus pauvres au Brésil. Et son livre, il raconte simplement ses moments de vie. Il raconte, je crois, c'est un livre qui parle de plusieurs années de sa marche au Brésil, où il y a une grande misère, évidemment, en Amérique latine, il y a des écarts très grands entre la haute société et les plus pauvres. Et en fait, ce mec, sa devise, c'est de se coucher le soir, je crois, et de n'avoir rien dans les poches, et de s'endormir avec rien. Et il raconte des moments qui sont, moi, qui me foutent les larmes aux yeux, quoi, qui sont bouleversants. Et on trouve une richesse et quelque chose de sublime dans le sacrifice que fait cet homme. Et c'est toujours le paradoxe un peu de la notion de sacrifice, encore une fois, on y revient. Hein. Je suis désolé, hein, c'est pas très funky, quoi. Mais la notion de sacrifice c'est qu'il y a un mystère, il y a une joie profonde à trouver là-dedans. Et en fait, le mec, il mange pas à sa faim, il dort dans la rue, il se fait tabasser par des voyous, par des flics, par tout. C'est très, très dur ce qu'il vit. Et en même temps, tu sens qu'il irradie une lumière et qu'il a une joie intérieure qu'on est beaucoup envié, quoi. C'est-à-dire, nous, avec tout ce qu'on a, tout notre confort et tout ça. Je pense qu'on touche rarement ce qui touche lui. Et donc c'est toujours cette notion de se donner aux plus pauvres, être dans l'humilité la plus grande, et en fait être finalement un phare pour les plus pauvres. Et du coup, je pense que, enfin, on le sent que cet homme vit une grande joie, et en même temps c'est très beau aussi parce qu'il fait des rencontres donc avec les plus pauvres, les plus démunis dans la rue, et il reçoit parfois il y a quelques leçons de vie de clochards complètement perdus dans des bleds paumés du Brésil ou n'importe où, qui lui sortent parfois une phrase ou qui lui expliquent avec leurs mots simples des choses qui sont des trésors en fait d'enseignement. Un peu comme dans ce film américain où tous ces films où t'avais le gamin qui à un moment croisait un vieux clochard qui lui disait un truc mystérieux, tu vois, et qui servait pour la fin du film. T'as presque un peu ça dans ce film. Et dans ce film, dans ce livre. Et voilà, moi ce qui me touche, c'est ça.
Est-ce que ça te parle aussi, peut-être parce que, par rapport à ce que tu as pu vivre au Panama dans ton enfance, peut-être de tu as cette notion aussi d'ouverture, d'aller vers les autres, d'autres cultures que peut-être effectivement quand on vit en France, on en a moins conscience, mais quand même un petit
oui,
peu.
Oui, on est moins au contact de... Bah, évidemment, au Panama, où on vivait... Bon, la cabane et tout, c'était super. Il y avait un village à côté qui est la Guaira.
Et de ta première chanson.
Exactement. Et la Guaira, c'est des villages très pauvres en réalité. Alors pauvres, en même temps, ils sont au milieu entre la jungle et l'océan. Ça pêche, ça chasse dans la jungle et tout. Et ils vivent quand même bien, comme dit Aznavour, mieux vaut vivre la misère au soleil, et on le voit vraiment là-bas. Mais tu es quand même confronté à la vraie pauvreté, à une grande humilité, à quelque chose qui nous est très étranger à nous Parisiens, quoi. Et du coup, ça m'a appris Déjà, moi, ça me passionne et ça me fascine d'aller au contact de gens qui vivent différemment de moi. Et encore plus d'aller chez les gens qui vivent humblement. Je ne sais pas pourquoi. Bizarrement, il y a un truc qui me fait kiffer, qui m'enrichit. Il y a quelque chose de... Je trouve ça beau, en fait, de parler à des gens qui sont peut-être moins privilégiés que nous. Il y a souvent une simplicité qu'on n'a pas dans nos sociétés occidentales ou dans les sociétés riches où il y a beaucoup de manières, beaucoup de codes, beaucoup de jugements. Plus tu descends dans la société, moins il y a de jugements sur l'apparence, sur ce que tu sais ou ce que tu ne sais pas, sur ce que tu as fait de ta vie. Et du coup, plus tu es dans un rapport vrai. Et ça vaut de l'or en réalité, quoi. Et on l'oublie, ou malheureusement, on n'en fait pas assez l'expérience. Mais ça m'a permis, voilà, à Panama de connaître ça et puis du coup de ne pas avoir peur de ça. C'est-à-dire qu'après, j'ai fait d'autres voyages dans des circonstances parfois extrêmes et aller au contact des gens, quels qu'ils soient, c'était naturel. Et c'est encore une chose que m'a apporté le Panama, quoi.
Et c'est des choses aussi que tu racontes, je trouve, un peu dans tes chansons. Et oui. Il y en a une, j'aurais bien aimé qu'on en parle, c'est Tenemos Todo.
Oui.
Qui parle justement un peu d'un voyage léger, justement, un peu de ce parcours. Enfin, je veux bien que tu m'en parles un peu, comment ça s'est créé, tout ça.
Tenemos Todo, en fait, c'est... Alors, au départ, l'inspiration de cette chanson, c'est que j'étais en galère. J'étais avec ma compagne, n'est-ce pas? Et je lui dis, on n'a rien, mais on a quand même l'essentiel. Et c'était un moment un peu crucial de nos vies. Et je lui disais... Oui, c'est la galère, mais regarde, on est en bonne santé, on a le sourire, il y a de l'amour. Mais ça fait écho un peu avec Panama, finalement, effectivement, avec cette enfance au Panama où on n'avait pas grand-chose. Encore une fois, cette cabane en bambou, pas d'électricité, le minimum, on vivait de peu, mais on était heureux. Voilà. Et Tenemos Todo, c'est ça, c'est nous avons tout si tu ouvres les yeux. Et parfois, il faut ouvrir les yeux et se rendre compte qu'en fait, être heureux, c'est aussi un choix. Et donc, si tu choisis d'être heureux, t'es heureux et t'as pas besoin de tout ce matériel pour être heureux.
C'est pour ça que je trouvais cette chanson très belle, c'est qu'elle te dit, bon, allez, l'essentiel, c'est quand même d'être là et de se dire que finalement, juste là, ça peut être bien aussi, quoi.
C'est vrai, mais je l'ai fait, c'est drôle, au départ, pour convaincre quelqu'un, en fait. Tu vois. Et finalement, avec le recul, je réalise qu'elle fait sens aussi avec ce que j'ai vécu au Panama et tout. Mais ouais, c'est ça.
On écoute Tenemos Todo.
Tenemos un rayo de sol que llegó entre tú y yo. Tenemos un rayo de sol que venció las nubes de febrero. Tenemos todo, si abres los ojos, tenemos todo. Tenemos un cuadrito de luz, un lugar, un hogar a salvo para marzo. Tenemos el duende de un andaluz. Cuando bailamos acostados, tenemos todo, si abres los ojos, tenemos todo. Si abres los ojos, tenemos todo, 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 todo. Pa pa ira ra, pa pa ra, pa pa ira ra, pa pa ra. El mundo está lleno de cosas que sobran. Si menos es más, pues duerme en paz. Tenemos todo, si abres los ojos, tenemos todo, amor mío, abre los ojos, pero abre los ojos.
Il nous reste un dernier livre, il nous reste Vol de nuit de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, écrit en 1931. Bah, toujours un peu le voyage et tout quand même.
Ouais. Alors ça c'est un livre que j'ai trouvé très beau. Pareil, je l'ai lu il y a longtemps.
Vol de nuit de Saint-Exupéry est sorti en 1931. C'est un livre inspiré de sa propre vie, écrit lors d'un séjour en Argentine. L'histoire se passe en 1928 lorsque l'aéropostale décide, pour écourter les délais de livraison du courrier, de mettre en place les vols de nuit. Des vols très dangereux où la moindre erreur peut être mortelle. Un très beau texte sur le dépassement de soi, le rapport à la mort et à la nuit. Si vous n'avez lu que Le Petit Prince de Saint-Exupéry, il est temps de vous plonger dans celui-là.
Du coup, il y a cette notion d'aventure qui moi me fait rêver. Ces mecs qui, à l'époque, qui risquaient leur vie pour pouvoir emmener transporter des lettres. Ça me fascine, ça me fait rêver. J'aurais aimé avoir ces vies-là. Et j'imaginais ces aviateurs, dans le livre, on en parle, quoi. Les mecs qui sont dans leur avion avec, à l'époque où tu n'avais même pas de cabine, ils avaient leurs lunettes, tu vois, le gros bonnet là, et la veste en cuir de beau gosse, et en pleine nuit.
L'avion en papier.
Exactement. Le truc. Voilà. Tu vois, en train de traverser les déserts, les océans comme ça, pendant des heures, tout seul. Enfin, il y avait souvent un copilote. Donc toute cette ambiance dans le livre, elle est super bien décrite, et moi, ça me fait rêver, je me vois à la place de ces gars-là. Et puis, il y a une notion plus profonde, encore une fois, qui est celle de... On en revient toujours un peu au même thème, finalement. Si j'y avais pensé plus profondément, j'aurais peut-être pris un seul livre plus léger. Il y a cette idée des deux vérités qui s'affrontent, qui m'avait marqué dans ce livre et que j'aimais beaucoup. C'était notamment l'aviateur dont on parle dans ce livre, qui est décrit. Il a une femme qui l'attend. Je ne sais plus s'il a des enfants, mais en tout cas, il a une épouse qui l'aime et qui l'attend. Et elle doit le laisser partir, et lui, il va risquer sa vie pour emmener des lettres, quoi. Donc ça pose cette vraie question, moi qui crois en la vérité, en l'absolu. Il y a des cas de figure où tu dis, où est la vérité, finalement?
C'est-à-dire, du coup, c'est...
C'est-à-dire, est-ce qu'il doit renoncer à ses voyages parce qu'il a une femme qu'il aime et qu'il s'est marié et qu'il a un devoir face à elle, en tout cas de rester en vie tant que possible, quoi, de ne pas risquer sa vie. Je ne sais plus s'ils ont des enfants ou pas, mais de dire, est-ce que finalement, risquer ma vie pour emporter des lettres à l'autre bout du monde vaut vraiment la peine, tu vois? Et en même temps, c'est le propre de l'homme, quoi, d'essayer d'aller plus loin, de
s'accomplir. Surpasser.
Exactement, de se surpasser, de s'accomplir. Lui, il s'accomplit dans ce challenge d'arriver là-bas, et puis même techniquement, finalement, de faire avancer l'humanité, le monde, en porter le courrier à l'époque. Je crois que c'est en Argentine. C'est des grandes avancées. C'est après ces réussites-là qu'ils ont réussi à établir vraiment ça. Alors, ça a coûté des sacrifices, je crois même d'ailleurs. Moi, je ne vais pas faire la spoiler zone, là, comme on dit, je n'ai pas raconté la fin, mais y a eu beaucoup de sacrifices, il y a eu des vies humaines perdues pour l'idée de pouvoir étendre la communication à plus loin et permettre aux hommes de communiquer d'où qu'ils soient. Et il parle dans ce livre très bien, voilà, de cet affrontement de ces deux vérités, ce but qu'a cet aviateur, et en même temps sa femme qui souffre derrière le martyr parce qu'elle ne sait pas s'il va s'en sortir, enfin s'il va réussir à faire cette expédition. C'était très dangereux. Et d'ailleurs, je me souviens de cette phrase qui m'a marqué dans ce livre, qui est Saint-Exupéry dit « L'homme ne trouve de vrai bonheur que dans le devoir. » Bim, je vous laisse réfléchir là-dessus. Parce que c'est là.
Merci, vous avez 4 heures.
Ouais, exactement.
Mais pourquoi ça te parle autant?
Vous avez toute une vie plutôt.
Ouais. Pourquoi ça te parle autant?
Parce que...
Tu te poses beaucoup cette question du devoir, le sens du...
Parce que, en fait, ça c'est une notion presque philosophique et chrétienne. Je ne sais pas si on ne va pas perdre tout le monde en rentrant là-dedans, mais en même temps, on est peut-être un peu obligé. Il y a la notion, comme le monde est imparfait, il y a la notion du mal, du péché. Comme il n'y a pas de paradis sur Terre, en tout cas là, actuellement, en tout cas, il a été... malheureusement, il n'y a plus de jardin d'Éden. Il faut pouvoir répondre à ces problématiques, et du coup, on n'a pas de liberté absolue. Et on est obligé de répondre à des devoirs, à des obligations pour que la vie se mène tant bien que mal, le mieux possible. On peut pas, tu ne peux pas coucher avec n'importe qui demain, pas avec la femme de ton pote, tu vois.
C'est vrai que c'est dommage.
Non, mais tu vois, c'est un exemple bête, mais on te dit beaucoup aujourd'hui, profite, fais ce qui te plaît. Il y a des cas de figure où tu ne peux pas faire ce qui te plaît, parce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que ton envie physique de l'instant, ou même ton envie du cœur, tu vois. Il y a une chose plus grande, c'est par exemple l'amitié, le respect pour ton pote, tu vois. C'est une notion de devoir, voilà. C'est un exemple qui est bête, mais tu tombes fou amoureux la nana de ton meilleur pote, ou même pas ton meilleur pote, d'un pote, ton devoir, ça sera d'y renoncer. Tu vois. Alors on pourrait dire pourquoi l'amour c'est plus fort que tout. Ouais, mais bon, l'amour, l'amitié, c'est effectivement c'est très fort. Donc ça m'intéresse parce que c'est réel, que je pense que c'est pas en fuyant le devoir et les obligations qu'on est plus heureux. Et en même temps, ça pose un vrai problème, c'est qu'on aimerait bien s'alléger de ce fardeau et de tout ça et kiffer, 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 kiffer encore et jusqu'à la fin. Mais malheureusement, ça ne nous est pas donné ici-bas, en tout cas dans cette vie-là. Et en même temps, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est cette dimension de sacrifice, de devoir et de souffrance qui donne une dimension plus profonde à l'existence humaine et qui fait qu'après, les moments de beauté, les moments de joie sont encore plus forts. Si t'es que dans le kiff tout le temps et que tu refuses tout sacrifice, le kiff perd de son... perd de sa profondeur, de sa pureté, quoi. Cette notion de devoir, elle est dans tout finalement. Tu dois travailler ton instrument pour un jour déchirer sur scène et que tout le monde dise waouh, c'est trop beau la musique, ouais, c'est trop beau, mais t'as bossé derrière comme un fou, et plus tu bosses et plus ça sera beau, tu vois. Donc c'est pareil, plus tu te sacrifies parfois. Alors attention, la notion de sacrifice, elle a un sens parce que on croit et on veut croire que derrière il y a une récompense à ça et que c'est le sens juste des choses. Se sacrifier juste pour se sacrifier, pour que ça soit que du sacrifice et que de la souffrance, c'est que ton sacrifice n'est pas le bon en fait. Donc il y a une vraie réflexion derrière. Voilà.
Tu me parlais aussi, tu me disais dans Vol de nuit, ça parle aussi du voyage, d'aller vers l'inconnu, etc. Si je me trompe pas, c'est un peu aussi ce que tu racontes dans ta chanson Là-bas.
Oui, tout à fait.
Et je voulais que tu m'en parles un petit peu avant qu'on l'écoute.
Alors Là-bas, c'est une chanson qui... en fait, je raconte un voyage que j'ai fait quand j'avais 19 ans. J'ai vécu en Argentine un an, et puis arrivé les vacances de Noël, j'avais pas les moyens de rentrer en France. Et du coup, je décide de partir découvrir l'Uruguay. Et je rencontre un Français la veille.
Tout simplement, on n'avait pas du tout la même vie à 19 ans. Je suis assez jaloux.
Écoute, c'était... Ouais, c'est les quelques... Ouais, c'est les belles péripéties de cet âge-là. Et ben d'ailleurs, tu vois, c'est drôle parce que le vivre à 19 ans, souvent, quand j'ai fait ce voyage qui a été absolument extraordinaire pour moi, je me disais souvent, j'avais déjà conscience que j'avais de la chance de le vivre à 19 ans. Parce que plus tu vis les choses jeunes, plus tu les vis intensément. Donc traverser un pays sans argent, sans bagages, juste avec les habits que tu as sur toi, à 19 ans...
C'est vraiment ça ?
Ouais, vraiment. J'ai vraiment... avec un pote, et puis après on a trouvé un troisième gars, on a monté un trio. On a vraiment traversé, enfin c'est même pas qu'on a traversé, c'est qu'on a fait l'Uruguay en long et en large pendant 2 mois et demi, avec juste, moi j'avais un short, des sandales, un t-shirt et mon passeport par miracle que j'avais gardé dans ma poche droite, parce qu'en fait on s'est fait tout voler le premier jour, et on était partis sans argent, en se disant on vivra de nos guitares, et on avait quand même une tente dans le sac, et 2-3 fringues et une casserole quoi. Eh ben, le premier jour arrivé en Uruguay, on s'est fait tout voler. Et on s'est retrouvé avec les fringues qu'on avait sur nous, le passeport, parce qu'on venait de se faire contrôler à la frontière. Et donc, on avait nos passeports et absolument rien d'autre.
Plus d'instruments, plus rien.
Plus d'instruments, même pas d'instruments, quoi. Et donc, on s'est retrouvé comme des clochards. Comme des clochards, mais avec le peps de tes 19 ans et de...
Tenemos todo, quoi.
Exactement. et du coup, ça change tout. Et c'était extraordinaire parce que quand t'as absolument rien, bah déjà t'es poussé à faire des choses que tu ferais pas quand t'as ta carte bleue et compagnie. C'est-à-dire un moment quand t'es mort de faim, bah tu vas toquer aux portes et là tu rencontres des gens d'une façon dingue, tu vois. Et puis les gens, ils voient aussi, ils voient que t'as rien, ils voient que c'est pas du pipeau. Et donc ils s'ouvrent d'autant plus et tu fais des rencontres qui te marquent à vie. Et puis tu vois, ça fait un peu le lien avec Pèlerin Eric dont on parlait. Ça a été... encore une fois, quand tu vis comme ça, vraiment près même de ceux qui souffrent, tu vis un truc exceptionnel que tu peux trouver nulle part ailleurs. Et moi, je l'ai expérimenté un peu pendant ce voyage. On a notamment connu la faim. Je peux dire qu'on a connu la faim. Bon, ça, évidemment, c'était une parenthèse dans ma vie, donc je ne peux pas comparer ça à ceux qui vivent comme ça en permanence. Mais c'était une expérience dingue de découvrir ce que c'était que ne pas manger, pas parce que tout est fermé, t'as oublié de faire des courses ou machin, mais parce que tu peux pas t'acheter à manger. Et ça m'a fait réaliser aussi à quel point quand t'es dans un monde où tout te pousse à la consommation et que t'as rien, c'est une torture en fait. C'est-à-dire que les gens là qui sont dans le monde occidental et qui n'ont rien, et on leur fait miroiter les belles bagnoles, les belles nanas, les beaux restos, les pizzas, les trucs, et ils n'ont rien, c'est terrible quoi. Mais pour en revenir au voyage, c'est de ça dont parle la chanson. C'est aussi de cette sensation, parlons un peu de choses plus gaies, cette sensation de liberté, sensation de liberté absolue qui est extraordinaire. C'est que quand t'as rien, ben en fait, t'as peur de ne rien perdre, on avait déjà tout perdu. Et en fait, tout n'est que du gain, tout le temps. C'est-à-dire la personne que tu vas croiser qui va te donner un bout de jambon, qui va t'inviter à dormir chez lui, qui va te prendre sur sa bagnole jusqu'à la prochaine ville. Tout n'est que, tu pars de rien et tout n'est que don tout le temps. Et, tout n'est, et puis surtout, tu marches d'un... Rien que cette sensation de ne pas avoir de bagages, moi j'invite les gens à le faire. S'ils m'écoutent, s'ils ont le courage, s'ils ont les moyens, essayez un jour de partir avec presque rien. Et ben, c'est un kiff, c'est sublime.
Et comment vous vous en êtes sorti finalement ?
Alors il y a eu toute une technique, tout un processus. Au départ, on n'avait rien. Donc l'idée, c'était chaque ville dans laquelle on arrivait, c'était de trouver des mecs qui avaient des guitares. Donc on errait comme ça, et puis d'un coup, on voyait un mec qui avait une guitare, un hippie avec sa gratte, un Jones. On allait vers lui. Excuse-nous, mec, on n'a plus rien. Est-ce que tu nous prêterais ta guitare ? On fait juste deux titres devant cette terrasse, on te la rend. Bon, les mecs, ils hallucinaient. Ils voyaient deux Français sans rien qui prenaient une guitare. On se mettait devant la terrasse de café. On chantait chacun une chanson. Pendant ce temps, on passait le chapeau. Pendant que chacun faisait sa chanson, l'autre passait le chapeau. Et on rendait la guitare au gars. On lui disait merci et tout. On avait juste de quoi bouffer. Et avec ça, on allait bouffer. Il fallait répéter le processus donc à midi, matin et soir. Sauf qu'il y a des endroits où tu trouves personne avec des guitares, il y a des endroits où tu as une guitare mais il n'y a pas de terrasse de café parce que tu es dans un bled tellement paumé qu'il n'y a rien, tu vois.
Vous faisiez quoi ? Vous chantiez sans guitare ?
Y a des moments où tu chantes pas et tu bouffes pas. Et puis t'attends, moi je me souviens, j'ai plein de souvenirs marquants de ce voyage. Je me souviens d'un jour, on était sur une route, c'était un peu comme le désert, enfin c'était tellement des grandes étendues là-bas. T'imagines une route avec une ligne droite comme dans le désert et puis des champs à perte de vue et rien. Et puis au fond, on voit une petite maison en bois. On avait faim, ça faisait, 24 heures qu'on avait presque rien bouffé, on n'en pouvait plus. Puis on marchait, on avait soif et tout. Et on voit cette maison en bois au loin, mais c'était vraiment comme la petite maison dans la prairie, tu vois. Et puis on décide d'y aller, donc on y va. On s'arrête, il y a un portail, on se dit on y va ou pas, il y avait un chien, je sais pas quoi. Et puis on voit une vieille qui sort, une vieille dame et qui nous regarde, qu'est-ce que vous voulez ? Avec un regard super méfiant, on se dit waouh, c'est mal barré. On lui dit pardon madame, excusez-nous de vous déranger. Faut imaginer qu'on est au milieu de rien. Elle voit trois mecs qui arrivent alors qu'elle est seule, tu vois, déjà elle flippe. Pardon madame de vous déranger, on a rien, on a faim et tout. Alors attendez, bougez pas. Et puis elle revient avec un litre de lait et un bout de viande froide, un gros bout de viande. Et elle nous donne ça. Il y a eu plein de moments comme ça, mais je me souviens de ce moment parce que le décor était sublime et que cette dame finalement était méfiante au début, finalement elle est sortie, elle a traversé tout son jardin, elle nous a donné ce litre de lait, ce bout de viande, et elle nous a dit « Bonne chance les garçons, je suis avec vous et tout, c'était trop beau ». On est reparti avec notre litre de lait, on a été s'asseoir dans les il y avait ces champs à perte de vue, au milieu des hautes herbes, je me souviens, et on a bu le lait. Et puis surtout, c'est drôle parce que dans ces moments-là, tous tes petits codes, ta façon de vivre à l'occidental, où là, tu l'oublies complètement. Très vite, il y a plein de choses que tu mets de côté, et notamment la viande. On mangeait à même la viande comme des hommes préhistoriques. C'est-à-dire, moi, je bouffais, ensuite mon pote Grégory, ensuite Christiane, qui était un Uruguayen. Et puis après, ça repassait par moi. Enfin, tu vois, c'est des trucs... Ici, tu dirais non, tu vois. Non, je le fais pas. Et là, tu te débarrasses aussi de tous ces trucs un peu... qui ont un sens hein, quand tu es en ville et en société, mais c'est beau aussi et c'est une vraie leçon de vie d'apprendre à mettre tout ça de côté.
Tu vois, c'est ça que je trouve génial dans ton album, c'est que tu racontes des choses, ça donne toujours le sourire. Même là, quand tu racontes ton histoire, il y a toujours un truc où ça pousse à être bien, en fait, je trouve, tu vois.
Ça me fait super plaisir.
Donc c'est vraiment chouette, et donc on va écouter là-bas, quand même, parce qu'on est parti de là, on écoute là-bas.
On suivait les pointillés d'une route en hypnose éblouie. Là-bas l'horizon qui cache sans doute la victoire, le grand oui. Aïe, 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 aïe. Un pied devant l'autre sans même y penser. Pontin mécanique dans leur odyssée. Les yeux enchaînés au mirage d'après. Ce que l'on cherche est tout près. Aïe, 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 por allá. Ouh, 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 ouh,
grandes illusions. La nuit rompre le pain dérobé. Le corps a ses raisons. On a couru sur des plages où seul courait le vent. Plonger nos ailes dans l'océan comme des anges sans âge. On a couru sur des plages comme des anges sans âge. Mmh. Aïe, 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 aïe.
Pour terminer, j'ai pour habitude d'offrir un livre que j'ai aimé. Je voulais t'offrir Héritage de Miguel Bonnefoy. Je ne sais pas si tu l'as lu. C'est un livre qui est sorti l'an dernier. Je voulais te l'offrir parce que c'est une histoire, c'est une destinée familiale en fait. C'est des Français qui partent, qui veulent aller d'abord aux États-Unis et puis en fait ils atterrissent au Chili. Et c'est la famille Lonsonnier. Et c'est toute l'histoire de cette famille qui s'installe là-bas, qui réussit à s'acclimater, à créer un business là-bas. Enfin, en tout cas, voilà, ils ont une fille, Margot, qui est aviatrice, qui est pionnière de l'aviation, qui veut absolument voyager, etc. Il y a un peu toutes ces notions dont on a parlé justement de dépassement de soi, de voyage. Et puis en fait, leur histoire est rattrapée par la guerre. Ça parle aussi de tout ça.
C'est un roman.
C'est un roman. Ouais. Alors Miguel Bonnefoy, lui, il a grandi au Venezuela. Son père est chilien et sa mère est vénézuélienne. Okay. Il a écrit en français alors que c'est pas du tout sa langue maternelle. Ouais. D'accord. Et c'est super beau, c'est hyper beau. Et surtout, je te dis ça, c'est vraiment la notion du voyage. Tu vois, c'est presque un roman d'aventure hyper bien, avec ce personnage de Margot, justement la fille là, qui est vraiment bien et qui est un personnage, j'allais dire féministe, c'est pas tellement féministe, mais en tout cas c'est un très fort personnage de femme quoi. C'est vraiment bien.
Je le lirai avec plaisir.
Je pense que ça devrait te plaire. Merci beaucoup Mathieu.
Merci à toi
pour
merci
ce moment vraiment. Passé ensemble, c'était super sympa.
Et ben pareil, c'était ça me fait plaisir de partager sur tout ça, tous ces livres que j'avais un peu oubliés et voilà, que j'ai ressorti de ma mémoire.
Qui permet d'en apprendre un peu plus sur toi, c'est cool.
Ouais.
Merci encore Mathieu.
Merci à toi.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous trouverez dans la description tous les titres dont on vient de parler avec Mathieu. Je vous rappelle que Perds pas ma page est disponible tous les mardis sur toutes les plateformes. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire si l'épisode vous a plu et m'écrire sur Instagram ou sur Twitter. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et d'ici là, très bonne lecture.